Merci d'écouter RFI. Il est 23h, ici à Paris, 1h, à Mamoudzou.
24h en France.
Et prenez place pour votre demi-heure d'infos consacrée à l'actualité française. Nous sommes le lundi 16 décembre. Ravi de vous accueillir.
Martin Guez.
Une édition largement consacrée à la situation à Mayotte. Après le passage du cyclone Chido, de premiers patients ont été transférés à La Réunion. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau est sur place. Le président Emmanuel Macron a également annoncé sa venue. Reportage et témoignage à suivre sur l'île dévastée, alors qu'un bilan humain est pour l'instant impossible à établir. Dans l'Hexagone, un projet de loi de finances spéciale en attendant un budget pour 2025. Et toujours pas de gouvernement. Le Premier ministre François Bayrou poursuit ses consultations. Enfin, au procès de Mazan, dernière semaine de procédure, les accusés ont pris pour la dernière fois la parole. Dans la deuxième partie de 24 ans en France, nous irons à la rencontre de Koku Ferdinand Makuvia, artiste togolais exposé en ce moment au palais de la Porte Dorée. Et nous irons à la maison Claire Moranda, de Malancienne, relais de l'aide sociale à l'enfance dans le nord de la France, avec le reportage de Laurence Théo. 24 ans en France, vous avez le programme, c'est parti.
RFI. Ne me demandez pas de bilan, mais je serai bien incapable de me projeter pour vous donner de quelconques chiffres pour l'instant. Il est clair que l'île est totalement dévastée.
Après le passage du cyclone Chido, place au jour d'après à Mayotte, une île complètement dévastée, selon les mots du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, que vous venez d'entendre. Il s'est rendu sur place et se dit ce soir bien incapable de se projeter. L'archipel de 320 000 habitants, confronté à la pire catastrophe de son histoire depuis près d'un siècle. Difficile d'estimer un bilan humain exact. Mayotte coupée du monde, sans électricité et sans eau. 25 premiers patients en situation urgente ont été évacués tout à l'heure vers La Réunion. Un pont aérien a été établi entre les deux îles. L'habitat précaire a été complètement détruit. Les nombreux bidonvilles de Mayotte ne sont plus que des débris. Lisa Morisseau, notre correspondante, s'est rendue à Sada, ville de l'ouest de l'île, à la rencontre des habitants après la catastrophe. Reportage.
Le cyclone à peine passé, les habitants commencent déjà à reconstruire leur maison. Les sons de marteaux résonnent dans toute la ville. Ibrahim Saïdié habite dans un bidonville sur la colline. Après s'être réfugié chez des proches pendant le cyclone, dimanche, il a retrouvé sa case entièrement détruite. Des tôles, des meubles jonchent le
sol. Tout ce que vous voyez, c'est envolé. Juste, on est vivant, alhamdoulilah. Donc on remercie Dieu dès qu'on est vivant. Mais ce qui s'est passé, c'est vraiment catastrophe. Pas grand chose à dire, c'est pas le mot. Voilà.
Le voisin Abdou Latif, 17 ans, est aussi revenu sur place constater les dégâts.
C'est complètement détruit, ça me fait mal au cœur parce qu'on n'a plus d'endroit pour aller dormir. Donc, du coup, on ne sait plus quoi faire. Si au moins on trouve des aides, ça sera mieux. Mais voilà, la situation, mais c'est vraiment compliqué en ce moment.
À Mayotte, département le plus pauvre de France, un tiers de la population habite dans des habitats informels. C'est dans ces quartiers que le cyclone a été le plus mortel. Le bilan pourrait atteindre des centaines, voire des milliers de morts, selon le préfet. L'île est actuellement coupée du monde, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité ni de réseau, et les secours peinent à s'organiser. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Et la situation sanitaire, par ailleurs, est alarmante et fait craindre aussi le retour du choléra. Mayotte, qui a été frappée l'an dernier par une épidémie qui avait fait deux morts. Hugues est infirmier sur l'île, coordinateur du matériel médical, et il tire la sonnette d'alarme.
Ça fait quand même 48 heures qu'on est sans électricité, ça fait 72 heures qu'on n'a pas d'eau au robinet. Et donc, sans électricité, les pompes qui envoient l'eau dans les tuyaux au niveau des usines, elles n'envoient rien parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, il nous faut rapidement d'électricité pour qu'on puisse de nouveau avoir, en voie de conséquence, de l'eau au robinet. Parce que ce matin, on voyait des gens qui se baladaient avec des seaux vides et qui cherchaient des endroits pour aller chercher de l'eau. Si cette pénurie d'eau continue, je pense qu'on peut rapidement craindre le retour du choléra à Mayotte, si tant est qu'il en soit un jour sorti. On va systématiquement, quand on peut passer encore, chez les gens pour voir, comme j'ai fait ce matin chez trois patients, voir ce qui se passe, faire l'état des lieux. J'ai ramené du matériel de petite terre là pour justement ramener, distribuer sur grande terre. Alors, en parlant de ça, tout à l'heure, on est resté bloqué plus de 2h30 sur petite terre parce que là-bas, je ne pouvais pas partir tant qu'il y avait un ministre qui n'était pas dessus. Donc, si effectivement les ministres ils viennent pour en plus nous rajouter des délais, ils peuvent rester chez eux. On est déjà assez dans la merde comme ça. Qui continuent tous à défiler un tous les jours ou un tous les deux jours. Ça bloque là quand je suis revenu. Tout le centre-ville de Mamoudzou était bloqué parce que monsieur le ministre, évidemment, faisait sa visite.
À propos recueilli par Lola Fourmi pour RFI. L'activité économique de l'île est également complètement à l'arrêt. Justine Fontaine a pu joindre Bouraïma Ali Ousseini, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises à Mayotte.
La situation est dramatique, c'est un drame. 100% des entreprises que j'ai contactées, qui m'ont appelé, ont été touchées par la tempête. soit le départ du toit et après infiltration d'eau dans tous les bureaux, donc tout le matériel perdu. Il faut tout racheter, il faut refaire toute l'électricité, il faut refaire le toit. Sur des chantiers, ben, le matériel a été emporté. Certains ont perdu, ça a été dérobé, hein, ça a été volé parce qu'il y a des pillages là sur certains sites. Pour d'autres, tout ce qui est transport, etc., ben, ils ont tout perdu. Il y a eu beaucoup de projectiles qui ont été emmenés par le vent. Ils ont heurté la majorité des véhicules. C'est des dizaines de millions d'euros de stock perdus.
Et le président français Emmanuel Macron parle ce soir d'une tragédie. Il déclare se rendre à Mayotte dans les prochains jours. Un deuil national sera décrété, a-t-il annoncé. Le bilan officiel est de 21 morts à l'hôpital, mais le préfet local redoute plusieurs centaines de victimes et a mis sur pied une mission de recherche des corps. Ce soir, les États-Unis se disent prêts à aider Mayotte en offrant une aide humanitaire, alors que le Parlement européen a lui observé une minute de silence en mémoire des victimes. Aux Comores voisines, le président Assoumani Azali a décrété un deuil national d'une semaine.
24 heures en France.
Dans l'Hexagone, toujours pas de gouvernement, mais une esquisse de budget, au moins provisoire, puisque l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi spéciale visant à assurer la continuité de l'État et de la sécurité sociale. Le texte doit être examiné au Sénat ce mercredi pour une adoption définitive. Un premier texte en attendant, l'adoption de textes budgétaires plus ambitieux début 2025, lorsque François Bayrou aura nommé un gouvernement. Un texte technique surtout, sans portée politique, a expliqué le ministre démissionnaire de l'économie, Antoine Armand, et qui a donc été adopté à l'unanimité, mais avec quelques tensions, Charlotte Orient-Tomaca.
Deux objectifs pour ce texte, continuer à lever l'impôt et permettre à l'État de contribuer à émettre de la dette afin d'assurer la continuité des services publics. S'il vise seulement à éviter la discontinuité budgétaire, le texte n'est pas la reconduction du budget de l'année dernière, a expliqué le ministre de l'économie, Antoine Armand. Adopté par les 481 députés présents dans l'hémicycle, le projet de loi comprenait trois articles techniques. Ce lundi, la présidente de l'Assemblée nationale avait déclaré irrecevables les amendements qui proposaient d'indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu. Une décision que les députés LFI voient comme un abus de pouvoir de la part de Yaël Braun-Pivet. Même son de cloche du côté du RN, et c'est désormais au tour du Sénat de se pencher sur le texte. Les élus de la Chambre haute l'examineront ce mercredi.
Charlotte Orient-Tomaca, par ailleurs, la Banque de France a ce soir abaissé ses prévisions de croissance 2025 de 1,2 à 0,9%, justifié par un contexte de double incertitude sur le plan national et international. Pendant ce temps-là, le nouveau Premier ministre, François Bayrou, a lancé une série de consultations avec les différents groupes représentés à l'Assemblée nationale, à l'exception des Insoumis qui ont refusé l'invitation. Les principales forces politiques ont été reçues. Un premier round qui permet de savoir quel parti ne souhaite pas entrer au gouvernement. Raphaël Delvolvé.
Reçue en premier, Marine Le Pen du Rassemblement National n'était pas venue pour nouer une alliance, mais plutôt pour comparer avec Michel Barnier, qu'elle a fini par censurer, car pas suffisamment à l'écoute à son goût, de ses demandes sur le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration.
La méthode est plus positive que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Maintenant, j'espère qu'elle sera utile.
Satisfaction à ce stade, mais cela peut évoluer une fois le budget présenté, comme les projets sur l'immigration et la proportionnelle. À gauche, les socialistes, eux non plus, ne veulent pas être au gouvernement. Leur chef, Olivier Faure, confirme chercher un accord de non-censure.
Nous sommes dans une opposition qui est elle-même ouverte au compromis. Encore faut-il qu'un chemin soit ouvert. Et de ce point de vue, pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim. Au stade où nous nous parlons, nous n'avons rien signé, il n'y a pas d'accord de non-censure.
Il n'en dira pas plus sur le contenu des discussions, ni sur les retraites ou encore l'avenir du ministre de l'Intérieur, le très conservateur Bruno Retailleau. Même attentisme, doublé cette fois de discrétion du côté des forces présentes dans le précédent gouvernement. Ni Gabriel Attal pour les macronistes, ni Laurent Wauquiez pour les républicains n'ont souhaité s'exprimer à la sortie de leurs échanges avec François Bayrou.
Bonjour tout le monde.
Bref, un premier cycle de discussion qui en appelle un second. Un participant assure que le Premier ministre sait déjà quand il veut présenter son gouvernement.
Raphaël Delvolvé du service politique. Suite et fin du procès Pellicot cette semaine à Avignon. La cour est partie délibérer après 4 mois de procédure. Dominique Pellicot, accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes. Ils sont 50 à comparaître à ses côtés. Et aujourd'hui, ils ont pu s'exprimer une dernière fois à la barre, Tanita Fallet.
Il était le premier à être auditionné. Son avocate, la première à plaider. C'est donc lui qui a une fois de plus parlé en premier ce matin devant la cour criminelle du Vaucluse. « Je demande pardon », a-t-il adressé à sa famille. « Je voulais dire que je les aime ». Face à lui, Gisèle Pellicot, le visage impassible comme à son habitude. Mais ces mots étaient très importants pour Dominique Pellicot, selon son avocate, Maître Zavaro.
C'était le dernier face-à-face avec sa famille et son épouse.
épouse. Il a tenu à présenter ses excuses à sa famille, principalement. Voilà, il avait besoin d'exprimer son ressenti sur ce qu'il a vécu pendant 3 mois et demi.
Une avocate qui l'a également remercié, sans qui il n'aurait pas tenu. Il a salué son humanité. Maître Zavaro espère avoir réussi à éviter les 20 ans de réclusion criminelle à Dominique Pellicot.
J'attends d'avoir été entendue et comprise. Voilà. J'espère, très sincèrement et très humblement, j'espère que la Cour va pouvoir s'éloigner quelque peu du maximum légal qui a été prononcé et revendiqué par l'accusation.
Dominique Pellicot qui affirme maintenant avoir l'intention de se faire oublier. Tanita Fallet, Avignon, RFI.
Et on termine ce journal avec les débuts du groupe Canal+, à la Bourse de Londres. Avec 26 millions d'abonnés dans le monde, dont plus d'un tiers sur le continent africain, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré vient donc se frotter au marché financier. Et Nathanaël Vitran, cette entrée en bourse est un calcul mûrement réfléchi par son propriétaire.
Oui, Vincent Bolloré a fait sienne la devise antique « diviser pour mieux régner ». 7 ans après avoir pris le contrôle du groupe de médias et de communication Vivendi, l'homme d'affaires l'a explosé en 4 entités distinctes. Hachette pour l'édition, Havas pour la communication et donc Canal+, se sépare de ce qui reste de la maison mère. Objectif pour l'actionnaire majoritaire, mieux valoriser l'ensemble. Le groupe Vivendi pesait un peu plus de 10 milliards d'euros sur la place de Paris. Bolloré espère que la somme des 4 filles de Vivendi dépassera 15 milliards d'euros. L'homme d'affaires ultra-conservateur a choisi 4 places financières différentes. Canal+ restera ainsi une entreprise française, mais sera coté à Londres, un stratagème qui lui permet d'échapper à la fois à certaines réglementations européennes et de bénéficier au Royaume-Uni d'un statut particulier. Pour Canal+, le défi reste de taille, concurrencé par les grandes plateformes américaines. L'avenir du groupe pourrait se jouer en grande partie sur le continent africain. Le rachat en cours du sud-africain MultiChoice, qui doit encore être validé par le régulateur, pourrait ainsi asseoir encore un peu plus son assise sur le continent.
Et c'est avec Nathanaël Vitran que se referme ce journal. Mais restez bien avec nous. Tout de suite, place à notre invité.
24 heures en France. Martin Guèze.
Et direction à présent, le palais de la Porte Dorée, au musée d'art et d'histoire de l'immigration. C'est au sud-est de Paris où se tient une double exposition intitulée « Chaque vie est une histoire ». 13 artistes ont carte blanche pour investir ce bâtiment monumental. Et parmi eux, le sculpteur togolais Koku Ferdinand Makuvia, plasticien de 35 ans, le natif de Lomé qui partage aujourd'hui son temps entre Amsterdam et Paris et qui s'est confié à Sophie Torlotin.
Koku Ferdinand Makuvia, bonjour.
Bonjour.
Le palais de la Porte Dorée vous a donné carte blanche pour créer une installation dans la salle Curie. Avant de commencer à la créer, vous avez dû procéder à une cérémonie. Pourquoi ?
Cette cérémonie était très importante pour moi parce que quand j'étais venu pour visiter l'espace pour la première fois, j'ai senti qu'il y a eu une vibration, en tout cas beaucoup de voix que je recevais à l'intérieur de moi, dans ma tête, et je n'arrivais pas à discerner de quoi il s'agissait. Ces voix venaient de très loin, pour dire que c'est aussi la voix des personnes qui ont travaillé ici pendant toute la période de l'architecture, qui a été créée justement pour l'exposition coloniale en 1931.
Donc vous avez dû les libérer ?
Je ne dirais pas que j'ai libéré. L'idée, c'était de me poser la question sur l'histoire, sur l'héritage de l'histoire et ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis permis de partir en tout cas au Togo pour d'abord une cérémonie de pardon qui s'est petit à petit transformée en une cérémonie de permission pour être là et pour présenter les pièces qui sont présentes dans l'espace.
Koku Ferdinand Makuvia, est-ce que vous pouvez me dire quel est le nom de cette installation et en quoi elle consiste ?
Le nom de cette installation, c'est Azézé Amandrin, les 7 vases de la haute connaissance initiatique. Mais dans la définition, j'ai mis les 7 vases de la sorcellerie. Sorcellerie aussi parce qu'il y a eu toute une histoire coloniale qui a suivi la définition de Azé au Togo et que je ne veux pas oublier. Mais dans l'espace, le nombre 7 n'est pas là, on ne le voit pas.
C'est... Il y en a plus, hein. Il y a plusieurs effectivement installations en céramique avec des formes plus ou moins hautes qui peuvent d'ailleurs donner l'impression d'être des colonnes. Mais il y a aussi des feuilles au sol, il y a aussi des feuilles que l'on peut glisser à l'intérieur de vos créations.
Oui, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi sur tous les détails. En fait, les vases qui sont des colonnes, comme vous le dites, sont là disposées pour accueillir la conversation que nous pouvons donner. C'est-à-dire que dans l'espace, j'ai mis une petite table sur laquelle le public peut venir inscrire sa prière, sa pensée, ce qu'il sent de l'espace. Mais ce mot est écrit par l'encre que je fabrique à partir de l'écrit ou des feuilles des précédents visiteurs. Moi, je viens de temps en temps dans l'espace pour faire une cérémonie de calciner, de brûler toutes les feuilles sur lesquelles les gens ont écrit pour que ces prières puissent partir au ciel, à la nature, aux esprits.
Coco Ferdinand Macouvia, cette œuvre, elle a donc un sens cultuel, rituel presque.
Rituel dans le sens où je veux que le public ne vienne pas juste regarder des objets, mais aussi c'est juste pour faire visiter l'espace autrement. De se dire, mais il y a eu une histoire. Comment on s'approprie cette histoire? Je pense que c'est la conversation qui manque. Et surtout, n'oubliez pas de mettre vos mots, vos sentiments. Ça, c'est important parce que ça permet aussi aux divinités, aux esprits, aux objets, à tout, même le public qui ne vous connaît pas, de se connecter à vous et la discussion continue même spirituellement.
Coucou Ferdinand Macouvia, merci.
Merci à vous.
Coucou Ferdinand Macouvia, invité de Sophie Torlotin. Entretien à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. En France, presque 400 000 enfants font l'objet d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, alors que la protection de l'enfance est aujourd'hui en crise. Plusieurs milliers d'entre eux sont en attente d'un placement, faute de moyens ou de structures adaptées. Et pourtant, en 2022, une loi votée promettait en tout cas un suivi jusqu'à 21 ans. Mais dans les faits, beaucoup de jeunes sortent de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, à 18 ans et se retrouvent complètement livrés à eux-mêmes. La maison Claire Moranda, située à Valenciennes, dans le nord de la France, propose un accompagnement pouvant durer de quelques mois jusqu'à 3 ans pour les jeunes de plus de 18 ans. Une maison gérée par l'association SOS Village d'Enfants, où s'est rendue Laurence Théo, au reportage.
Ici, au rez-de-chaussée du 153, on apprend à cuisiner. Grand gaillard aux cheveux bouclés, Yanis plisse le front. Il se concentre sur la fabrication d'un wrap, une galette de blé qu'il faut piller, puis garnir.
Ça nous apprend et ça permet d'acquérir des compétences en cuisine.
Apprendre à cuisiner, à faire une lessive, des leçons indispensables pour faciliter l'entrée de ces jeunes dans la vie adulte. Les résidents ont connu enfants les foyers, les familles d'accueil, mais ils sont aujourd'hui majeurs. Ici, ils ont un toit. Ailleurs, ils seraient lâchés dans la nature.
On n'est jamais seul à la maison Claire Moranda. Ils ont réussi à recréer un peu une petite famille pour qu'on ne se sente pas seul, avec différents éducateurs, maîtresses de maison, directeurs et chefs de service qui sont très à l'écoute.
À l'étage sont regroupés 12 studios entièrement équipés. Morgane nous ouvre la porte de son appartement. Au mur sont affichées des photos de sa famille, même si elle ne la voit plus. Son parcours est marqué par la violence. Ici, elle trouve de la douceur.
Il y a une idée qui est beaucoup présente pour moi aussi, que ce soit pour l'insertion pro ou moi-même. On m'a amenée chez coiffeur la semaine dernière, donc ça fait du bien d'être entourée et qu'on prenne soin de moi et qu'on me dise que je suis belle et tout. Ça fait du bien.
La mission de cette structure gérée par SOS Village d'Enfants, c'est de rendre autonomes ces jeunes aux enfants scabossés. Hervé Hélot est directeur de plaidoyer.
Apprendre à gérer un quotidien, apprendre à gérer ses papiers, apprendre à gérer son économie personnelle et ses finances. C'est aussi le moment des premières relations amoureuses, d'entrer dans le travail avec tout ce que ça vient bousculer. Et c'est aussi beaucoup de réactivations de traumas ou de psychotraumas qui ont eu lieu dans l'enfance. Ce dont ils ont besoin de plus, c'est de la sécurisation affective. Et un établissement comme le nôtre, il fait ça.
Un visage encore juvénile, Jonathan a 18 ans, il est en service civique. Lui ne vit plus au 153, mais au 168, dans un studio ailleurs en ville, mais toujours géré par la maison Claire Moranda, une alternative proposée aux jeunes qui souhaitent plus d'indépendance.
J'ai de l'autonomie, énormément d'autonomie, et aussi beaucoup d'assistance, ou du moins l'assistance nécessaire, puisque les éducs seront là, mais ne seront pas non plus envahissants. C'est ce qui nous permet quand même d'avancer en étant écoutés avec une grande ouverture d'esprit où on peut discuter de tout et de n'importe quoi, de nos problèmes, de nos pensées, de nos joies.
Si un jour Jonathan en a besoin, il pourra, comme les autres, revenir vivre dans la grande maison de briques rouges. C'est le principe de cet établissement, être au plus près de ces adultes en devenir.
Reportage signé ce soir, Laurence Théo.
Le journal des Outre-mer.
Retour à Mayotte. À présent, le 101e département français, le plus pauvre, doit désormais affronter l'après-cyclone suite au passage de Chido. C'est évidemment à la une du journal de Benoît Ferrand. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Invité ce lundi matin de nos confrères de la première réunion, le journaliste Bruno Minas, fin connaisseur de l'île au parfum, a évoqué une situation évidemment déjà très difficile, mais qui pourrait bien s'aggraver encore dans les jours qui viennent, avec surtout, dit-il, un problème crucial, celui de la desserte en eau. Bruno Minas était interrogé par Philippe Dornier.
Il n'y en a plus du tout. Et ça, c'est gravissime parce que le choléra existe à Mayotte. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de cataclysmes. Je crois que la catastrophe à Mayotte, elle a eu lieu, mais elle commence surtout
aujourd'hui. Est-ce que le pire n'est pas à venir?
Oui, c'est ça. La catastrophe commence aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'eau. L'approvisionnement en nourriture va être extrêmement compliqué. L'agriculture mahoraise, elle est très petite. C'est plus proche du jardinage que de l'agriculture. Là, bon, y a plus rien en production locale. L'acheminement, ben, il faut acheminer tout. Ça va être extrêmement compliqué. Amener de l'eau, c'est très difficile. On a connu ça depuis quelques années.
Il y avait déjà des problèmes. Oui, oui. Il a fallu faire venir de l'eau minérale par bateau.
Voilà, on fait venir de l'eau par bateau. Mais maintenant, les usines qui produisent l'eau potable à Mayotte sont elles-mêmes sinistrées. C'est la première priorité, à mon avis, c'est de rétablir l'eau. Et puis alors, à quel prix? Je veux dire, un pack d'Edena, je ne sais pas combien ça coûte à La Réunion, un pack de 6 bouteilles d'Edena, à Mayotte, ça coûte 10 euros.
Direction les Antilles maintenant avec un tout autre sujet. Elle n'avait sans doute pas besoin de ce nouveau coup dur. La filière banane, déjà fragilisée par une baisse du revenu des planteurs, voit désormais avec inquiétude de se profiler à l'horizon une nouvelle concurrence, conséquence du fameux accord entre l'Europe et le Mercosur. Éric Stimpfling, La Première Guadeloupe.
La filière banane traverse une mauvaise passe depuis quelques mois. Si la production reste stable, voire augmente quelque peu, la barre des 60 000 tonnes devrait être atteinte cette année. En revanche, les producteurs font face à une dégradation de leurs revenus. Parmi les raisons invoquées, il y a tout d'abord la cercosporiose noire. Le champignon est devenu plus résistant au traitement. Conséquence, la proportion de bananes déjà mûres, à peine débarquées du bateau à Dunkerque, a considérablement augmenté. Or, une banane déjà mûre est une banane invendable. En 2024, la filière s'attend à perdre l'équivalent de 8 millions d'euros de vente. À cela s'ajoute l'augmentation des coûts de production. En 2007, il fallait 1150 euros pour produire une tonne de banane. 17 ans plus tard, il en faut désormais 1600 euros. Or, durant cette même période, le montant des aides européennes est lui resté le même, soit 404 euros. Par tonne exportée. Autre élément, les planteurs n'ont plus le droit désormais d'utiliser des herbicides. Il leur faut donc recourir au fauchage mécanique. Le surcoût a été estimé à 4 800 euros par hectare. Dernier motif d'inquiétude, l'accord Mercosur, signé le 6 décembre dernier entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine, va permettre l'arrivée sur le marché d'un nouveau concurrent et non des moindres, le Brésil, quatrième producteur mondial, avec 6,6 millions de tonnes annuelles. Bref, l'avenir pour la filière est désormais des plus incertains.
Une bonne nouvelle tout de même, pour terminer, une bonne nouvelle en Nouvelle-Calédonie pour les organismes en charge de la formation des animateurs et directeurs de centres aérés. L'État annonce en effet leur certification dans le courant du mois de janvier, une formalité indispensable mais suspendu depuis plusieurs mois. Charlotte Mestre.
Ils se sont vus le 2 décembre dernier. Enfin, après 5 mois de silence de l'État obligeant les organismes de loisirs à former des animateurs et des directeurs sans l'assurance qu'ils soient certifiés par la suite, car c'est l'État qui signe les habilitations, les PV des formations et des jurys. Sans sa signature, rien n'est valide et c'est ce qui se passe depuis le mois d'août. Ce qu'on nous dit en coulisses, c'est que le gouvernement, par le biais de la direction de la jeunesse et des sports et le haut commissariat, se renvoie la balle. La situation pourrait être seulement administrative, mais le problème c'est que sans habilitation, beaucoup d'animateurs de centres aérés, tout comme les directeurs, ne peuvent exercer. En gros, c'est comme s'ils avaient eu leur permis de conduire, mais comme il n'a pas été enregistré, ils ne peuvent pas détenir le fameux papier rose. Pour la FOL, ce sont 187 personnes qui sont concernées et sont en attente d'être certifiées. Selon la fédération, ils ont atteint la limite du cadre légal. L'Ossaria comme le gouvernement promettent que les dossiers 2024 seront validés, puis une solution transitoire sera mise en place en 2025 jusqu'à l'obtention d'un brevet calédonien de l'animation.
Charlotte Mestre de la Première Nouvelle-Calédonie, fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand, excellente soirée à vous aussi, mais restez donc avec nous. 24 ans en France continue sur RFI.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Que faire en cas d'accident domestique, comme par exemple en cas de brûlure à la maison?
Caroline Paré reçoit ce soir le docteur Massamba Sassoun Diop pour nous répondre.
Docteur Massamba Sassoun Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. Les bons gestes en cas d'accident à la maison, en cas de brûlure de la peau, comment réagir ?
Immédiatement, je dis bien immédiatement et souvent les gens l'oublient, c'est de mettre de l'eau. De l'eau du robinet ou en tout cas de l'eau qu'elle soit fraîche. Elle n'a pas besoin d'être ni glacée et bien évidemment pas chaude.
On laisse l'eau couler combien de temps sur la zone de la brûlure ?
Normalement c'est 10 minutes, mais là le plus important c'est le plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre.
Et si la peau est abîmée par un produit chimique ?
L'avantage c'est que toute brûlure, qu'elle soit chimique ou qu'elle soit calorique, donc par la chaleur, c'est la même chose. C'est toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et simplement quand c'est de la soude, c'est jusqu'à 15 minutes à 20 minutes au moins. Et quand c'est un acide, c'est 10 à 15 minutes minimum. On peut aller même jusqu'à une demi-heure quand c'est des produits caustiques comme la soude.
Si ensuite il faut se rendre à l'hôpital, est-ce qu'on met quelque chose sur la zone qui a été brûlée ?
Alors, on peut être amené à prendre un tissu propre et de lui mettre de l'eau dessus, de l'humidifier, et ce qui permet en même temps surtout de calmer aussi la douleur.
Merci beaucoup docteur Massamba Sassoun Diop. Dans Priorité Santé aujourd'hui, on va parler de la dépression au féminin. Symptômes et lutte contre les préjugés, pourquoi les femmes sont-elles deux fois plus touchées que les hommes par la dépression ? Quel est le rôle des violences sur la santé psychique des femmes ? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et voilà qui est bien noté, merci beaucoup Caroline Paré, voilà 24 ans en France. C'est terminé pour ce soir. Merci à Fabulous Fab à la réalisation, Benoît Solmignac à la rédaction en chef. Dans quelques instants, vous retrouverez Charlotte de Rouen pour la dernière édition d'Afrique Soir. Nous reviendrons notamment sur les CAF Awards, le Nigérian Ademola Lookman qui a décroché le Ballon d'Or africain 2024. Chez les femmes, la Zambienne Barbara Benda a remporté le titre. L'Ivoirien Emers Faye a lui été nommé entraîneur de l'année. Mais tout de suite, nous, on file à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et la bourse, c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur une baisse de 110 points et clôture à 43 717, mais l'indice du Nasdaq établit un nouveau record sur un gain de 247 points qui le propulse à 20 174. Le Nasdaq est tiré vers le haut par la poursuite de l'envolée de Broadcom, dont les perspectives de résultats annoncées la semaine dernière ont fort agréablement surpris. Broadcom est entré dans le club des valeurs bien placées pour tirer parti du boom de l'intelligence artificielle en raison de la forte demande pour le dernier modèle de ses microprocesseurs. L'action, aujourd'hui, bondit encore de quelque 11% après une envolée de 21% vendredi qui a fait franchir à la société, dont le siège est à Palo Alto, en Californie, le seuil de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Nvidia, en revanche, s'inscrit en baisse de plus d'1%. Il est vrai que le leader des semi-conducteurs pour intelligence artificielle a vu son cours décoller de 165% depuis le début de l'année. On remarque la hausse de près de 4% du cours de Honeywell International. Le conglomérat envisage de se débarrasser de ses activités dans l'aéronautique. En attendant l'issue de la réunion du comité monétaire de la Fed, mercredi, le marché obligataire est calme. Le rendement du T-bond à 10 ans reste à 4,38. L'euro se redresse encore un petit peu et revient à 1,0510. Le baril de pétrole américain perd 1% et repasse en dessous de 71$. Le Dow Jones perd 0,3%, c'est sa huitième baisse consécutive, mais le Nasdaq établit un nouveau record sur un gain d'1,2%.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Pour Kinshasa, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Pour Kigali, c'est un préalable à la signature d'un accord de paix avec le voisin congolais. Un dialogue direct entre la RDC et les rebelles du M23 vous semble-t-il indispensable ? Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Vous m'en direz des nouvelles.
Musique, cinéma, littérature, exposition, bande dessinée, spectacle vivant, photographie, gastronomie,
Du lundi au vendredi, Culture et Découverte s'invite en France et dans le monde pour exciter nos cinq sens et partager le bonheur d'être ému.
Vous m'en direz des nouvelles. Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10.